Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Bonjour à tous, eh bien oui, lire, c'est bon pour la santé. Alors c'est peut-être pas toujours bon pour les yeux si vous n'avez pas une bonne lumière, mais c'est bon pour la santé psychique. Ça va tellement bien même que Lecture par tous, votre émission littéraire, enfin, nous l'espérons, en est à sa 50e. Eh oui, nous arrivons tranquillement, 50 émissions. Oh, c'est pas fantastique 50 émissions, mais quand on est au micro... à préparer les émissions et tout, et quand on arrive à 50, on est content, on se débouche sa petite bouteille de champagne intérieure, on va dire. On a fait quand même pas mal de choses. Alors, je regardais un petit peu tout ce qu'on a fait. On a commencé par accueillir une librairie, c'était la Géosphère. Et oui, voilà. Alors, des librairies, nous en avons accueilli plusieurs dans cette émission. Nous avons accueilli aussi, ou rendu visite à la librairie Fière de Lettres, une librairie montpelliéraine. On était aussi pour l'ouverture de la petite librairie à Sommières. Et puis quoi d'autre, quelles autres librairies? La Cavale, bien sûr, la Cavale qui a ouvert à Montpellier. Et puis on a gardé des contacts avec la Géosphère assez réguliers. Et puis une nouvelle librairie qui s'est créée depuis que nous avons lancé cette émission à la rentrée, à l'automne, pas cet automne-là, mais le précédent. C'est l'Opuscule à Montpellier. Et puis nous avons reçu des écrivains où nous avons enregistrer des écrivains. On a eu Alphonse Cervera, l'Espagnol Alphonse Cervera, ça, c'était au festival de Collioure qu'on l'avait enregistré. Et puis Guillaumard de Gramont, c'était au même festival, une auteure brésilienne. Et puis nous avons reçu des auteurs locaux comme Raymond Alcover qui a écrit sur Montpellier. On a reçu Hélène Honora qui a écrit aussi, qui est installée à Montpellier, qui n'a pas écrit sur Montpellier, qui a plutôt écrit sur l'Indonésie et qu'on va recevoir prochainement. Et puis tout un tas de choses dans les libraires, oui j'oubliais, dans les libraires quand même, Tapuscrit, libraire et éditeur montpelliérain, et Yovana comme dans les éditeurs, un éditeur de Bagnols-sur-Cèze. Voilà, tout un tas de choses dans les éditeurs aussi locaux, les éditions Jorne, on s'est intéressé à l'Occitan, on a même reçu un poète occitan. Voilà, alors on va continuer à recevoir d'autres écrivains, d'autres poètes, d'autres éditeurs. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Allez, pour vous donner envie, alors déjà, on voyage avec Lecture par tous. La semaine dernière, rappelez-vous, la Chine. Nous sommes allés au cœur de Montpellier pour rejoindre la Chine. Allez, les semaines qui vont venir pour vous donner envie de ne pas rater notre émission. Puis, si vous la ratez, n'oubliez pas, il y a les podcasts sur le site de Divergence FM. Alors, normalement, la semaine prochaine, ça devrait être un entretien par téléphone avec Pascal Arnaud. Pascal Arnaud, c'est le patron des éditions Kidam, qui font un magnifique travail. Et puis, le 30, on devrait enregistrer en studio avec Laurence Bieberfeld, écrivain local, au sujet de son dernier livre. Le 6 février, on devrait s'intéresser à une bibliothèque de prêt anglaise qui est installée à Montpellier. Le 13 février, alors là, je suis très content de cela, ce sera Michel Volkovitch, traducteur et éditeur de littérature grecque, qui nous accordera quelques minutes. Et puis, nous devrions aussi rencontrer une correctrice, Edith Noublanche. Voilà. Et puis, point de suspension, plein d'autres choses. Alors, pour cette 50e, on aurait pu faire des choses extraordinaires. Non, la vie continue son cours. Nous allons parler un peu de l'actualité, de ce qui se passe dans les librairies et ailleurs. Alors, vous savez, ce week-end, par exemple, c'est la nuit de la lecture. C'est un événement organisé nationalement. Et bien sûr, vos libraires préférés, en tout cas un certain nombre, font des choses pour cette nuit de la lecture. Alors, 50e, nous avions commencé avec la Géosphère. Pour la 50e, nous sommes allés rencontrer la Géosphère qui va nous parler de sa façon de penser la nuit de la lecture, et puis qui va nous parler aussi des prochaines animations autour du livre avec la libraire Anne.
Actualité des librairies qu'on aime bien à Montpellier. Il y a quelques librairies qu'on suit plus particulièrement, notamment une librairie qui nous fait voyager, la Géosphère. Alors, nous sommes à la Géosphère avec la libraire Anne. Bonjour Anne.
Bonjour.
Alors, vous avez entendu d'autres fois, quand on était avec la Géosphère, vous avez entendu Magali Briossec, voilà. Anne est l'autre libraire, si je puis dire. Alors, plein de voyages prévus pour ce mois de janvier. Où est-ce que la Géosphère va nous emmener? Alors, je crois qu'il y a déjà un voyage au cœur de la nuit.
Exactement, au bout de la nuit. Alors ça, ce sera le 18 janvier, à l'occasion de la Nuit de la Lecture, qui est un événement national auquel nous participons, ainsi que des écoles, des médiathèques et donc bien entendu des librairies. Nous allons proposer deux temps forts. Un premier de 19h30 à 20h30, on propose à destination des 4-7 ans un tour du monde en album jeunesse. Donc apportez vos coussins et vos doudous et laissez-vous écouter des histoires. Et à partir de 21h, là ce sera pour les adultes, la gérante de la librairie se lance dans une performance et va nous lire un livre de A à Z, le magnifique Continuer de Laurent Mauvignier. Et pour ceux qui resteront jusqu'au petit matin, nous offrirons le petit déjeuner.
Donc prévoyez...
des couvertures et des coussins.
Et le thermos de café peut-être.
Bien sûr.
Pour ne pas vous endormir au milieu de la lecture. Encore que s'endormir pendant une lecture, j'ai des souvenirs comme ça de Daniel Pénac qui parlait de la lecture aux enfants ou aux jeunes et il disait... Ceux qui s'endorment au milieu de la lecture, surtout ne les réveillons pas, laissons-les dormir. C'est formidable de s'endormir comme ça, avec, accompagné d'une lecture.
Exactement. Et quel meilleur moyen que d'être bercé par les mots en plein milieu d'une librairie, en plein milieu de la nuit.
En plus d'une librairie. Hein. Formidable. Donc voilà, une belle expérience à faire, pas que pour les adultes. Vous pouvez amener vos enfants. Alors si vous voulez faire les deux... Il faut que vous prévoyez quelqu'un qui ramène les enfants à la maison quand même.
Il y aura un petit laps de temps entre 20h30 et 21h pour ramener les enfants à la maison.
Et revenir, vite. Voilà. Avec donc plein d'albums pour enfants, c'est vrai.
Exactement. L'idée, c'est vraiment de voyager un peu partout. Donc on va sélectionner 4-5 albums pour faire le tour des continents.
Et puis après, découvrir Laurent Mauvignier.
Laurent Mauvignier.
Continuer, en plus, vous avez choisi bien le titre, je dirais. Continuer, oui, ça va être une lecture continue.
Exactement. Et ça va être, c'est une chevauchée entre mère et fils dans l'immensité kirghize. Donc ça promet du dépaysement.
Donc vous pourrez voyager, vous n'aurez plus l'impression d'être dans une librairie, vous serez...
au milieu des steppes.
Quelque part, dans le milieu des steppes kirghizes. Alors ça c'est donc, va rappeler le jour et l'heure.
Le 18 janvier, alors de 19h30 à 20h30 pour les petits, et à partir de 21h pour la lecture adulte.
Et rappelons où est la librairie quand même.
Au 20 rue Jacques Cœur.
On vous écoute souvent, mais il faut redire où est la librairie.
Alors la Géosphère se trouve au 20 rue Jacques Cœur, dans l'Écusson.
Voilà. Et puis, c'est pas tout pour le mois de janvier, quelques jours plus tard...
Une semaine, exactement.
Une semaine plus tard, ça fait bien quelques jours, on va voyager de nouveau, on va aller de nouveau du côté des steppes, plus ou moins, non?
Alors, pas vraiment.
Pas vraiment.
Alors, le 25 janvier, on se réjouit de recevoir Philippe Gérin, qui est un auteur français, qui a publié en 2019 Les Voyages de Cosmeca, qui a été un de nos gros coups de cœur ici à la Géosphère. Donc, on est ravis de le recevoir. Et Les Voyages de Cosmeca, ça se lit vraiment comme un conte. On suit un mystérieux jeune homme qui quitte la France, qu'on va retrouver dans une île au large de la Scandinavie. Puis, quelques temps plus tard, quelques années plus tard, on ne sait pas trop, il a le temps de s'attacher à des gens, de construire un bout de vie, de repartir et se retrouver sur les bords du lac Baïkal, où pareil, il va rester quelques temps. Et enfin, on va le retrouver à Singapour, là, dans l'effervescence absolue de cette ville. Et petit à petit, on va comprendre qu'en fait, il n'est pas vraiment en quête de quelque chose, mais plutôt en fuite. Et tout ce roman est un va-et-vient entre cette idée de quête et cette idée de fuite. Et finalement, c'est un très 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 beau livre avec une très belle conclusion sur la quête de soi et l'apaisement Et vraiment, vraiment, on a hâte de le rencontrer et de lui poser plein de questions. C'est une très belle écriture, c'est un très beau conte, c'est un très beau texte. Publié aux éditions Gaïa.
Aux éditions Gaïa, oui.
Très belle maison d'édition.
J'en profite pour souligner voilà, hein, le travail des éditions Gaïa, qui publie beaucoup de littérature étrangère. Alors, ils ont publié des choses à succès, comme Katharina Mazzetti, par exemple. Hein, et puis des choses beaucoup moins connues, beaucoup de littérature scandinave, pas seulement. Jan Riel, on l'évoquait avant d'enregistrer. Et puis plein d'auteurs. Donc un éditeur, j'ai envie de dire à nos auditeurs, cet éditeur-là, suivez-le, regardez de près ce qu'ils font, et puis n'hésitez pas à acheter leurs livres. Vous savez, c'est ces petits éditeurs qui sont discrets, qui ne font pas de gros coups, on ne les voit pas dans les grandes émissions vedettes, hein, qu'elles soient télé ou autre chose, mais qui font un travail précieux et nous permettent de découvrir un tas d'auteurs méconnus. Alors là, c'est un auteur français, mais un tas d'autres auteurs. Et sans eux, les librairies seraient bien vides. Donc,
exactement.
Les voyages de Cosme K, Philippe Gérin, et c'est aux éditions Gaïa.
Exactement. Et enfin, pour finir le mois de janvier, on rencontrera une auteure bien connue des Montpellierins, hein, qui s'appelle Hélène Honora et qui publie aux éditions Yovana « Sois sage, ô mon bagage ».
Voilà, alors Hélène Honora, pour nos éditeurs, ben, vous l'avez déjà entendue à ce micro, hein, elle participe à notre émission régulièrement pour chroniquer. Et bien là, nous aurons un entretien avec elle sur son livre, hein, le dernier qu'elle avait publié se passait en...
N'oublie pas Irma, en Indonésie.
En Indonésie, voilà, et c'était déjà les éditions Yovana, un éditeur que nous avons reçu aussi à ce micro, Julien Poujol, qui fait un superbe travail aussi, thématique de voyage, mais pas seulement, et puis là, une collection de noirs dans laquelle Hélène Honora a publié son précédent volume, mais voilà, qui aime bien le voyage, qui aime bien voyager, donc un éditeur que vous devez bien connaître à la géosphère, j'imagine.
Évidemment.
Hein, qui est à Bagnols-sur-Cèze, un éditeur local en plus, donc à suivre. Mais bon, Hélène Honora,
on
vous racontera tout ça, on la recevra comme invitée pour une fois et pas comme chroniqueuse. Voilà, c'est pour le mois de janvier. Il y a des choses qui s'annoncent déjà à février ou pas, comme ça, on peut... préannoncer,
on peut préannoncer.
Sans en disant bon, à confirmer et à suivre sur le site de la librairie, je suppose.
Alors, à suivre sur le site de la librairie, sur les réseaux sociaux également. Mais une petite chose juste en avant-première, pour le reste, vous irez voir. On sera très heureux d'accueillir Gaston, qui signe une nouvelle BD. Et Gaston, il est bien connu aussi du public montpelliérain. D'habitude, il nous croque ses récits de voyage et c'est absolument hilarant. Et là, il offre une bande dessinée qui s'appelle « Sur la vie de ma mère », qui est beaucoup plus personnelle, autobiographique, très touchante, mais toujours aussi drôle et attachante. Donc, il viendra nous la présenter en avant-première, mais on ne vous en dit pas plus.
C'est en avant-première, donc vous guettez sur les réseaux sociaux, sur le site de la librairie, et puis peut-être Anne ou Magali viendront nous en dire plus à ce micro. Bien, ben, merci beaucoup Anne, et puis ben, chers auditeurs, rendez-vous à la géosphère. On rappelle l'adresse ?
20 rue Jacques Coeur.
20 rue Jacques Coeur. La nuit de la lecture, c'est ce samedi 18, à partir de 19h30 pour les enfants, à partir de 21h pour les adultes, c'est bien ça, j'ai tout retenu,
fait.
Et je fais ça sans papier, je vous assure. Le 18, ça c'est le 18, et puis la semaine d'après, le 25 janvier, 19h30, ce sera la rencontre avec Philippe Gérin pour les voyages de Cosme K, et le 31 janvier, toujours 19h30, ce sera Hélène Honora, je pense qu'on en reparlera ici, et puis, vous avez entendu, et chut, confirmation, bientôt. Merci Anne.
Avec plaisir.
Donc n'oubliez pas les rendez-vous, prochain rendez-vous avec la géosphère. Prenez vos couvertures, vos thermos de café pour la nuit de la lecture, le samedi 18. Si vous faites ça juste en début de soirée, n'oubliez pas les enfants, ils y ont aussi leur place. Alors on va passer maintenant à autre chose, un peu en prévision des entretiens que nous allons avoir.
avec une rubrique qu'on avait inaugurée il y a quelque temps et qu'on n'a pas vraiment repris. Première ligne. Eh bien, je vais vous livrer quelques premières lignes, tout simplement, sans plus de commentaires. Un auteur, un éditeur, un livre. Et puis voilà, à vous d'apprécier, d'aimer, de ne pas aimer, d'avoir la curiosité ou... On verra bien. Allez, on va commencer du côté de la littérature grecque. Ilias Papadimitrakopoulos, un extrait de Bain de mer chaud et autres recueils. Ce sont des nouvelles. Nikos l'embrouille. Il habitait notre quartier, mais nous n'avons jamais eu le sentiment qu'il était vraiment des nôtres. Non pas en raison du fait qu'il était bien plus âgé que nous, mais parce qu'il disparaissait périodiquement. On l'oubliait, puis soudain, il était de nouveau là, avec sa salopette bleue, petit, noireau, insaisissable. Dans le quartier, il devenait aussitôt le héros du jour. Le soir même, sa mère, celle que nous considérions comme sa mère, sortait du vin pour les amis et Nikos paradait avec des airs de grand voyageur, exhibant des objets rares et étranges, avec une telle aisance dans son comportement et une telle liberté dans ses mouvements que tout le monde l'enviait. Ce qu'il faisait dans la vie, quel était son vrai nom, personne ne le savait. Dans le quartier, on l'appelait l'embrouille, en raison de son allure et de ses agissements, et peut-être aussi parce qu'un soir, alors qu'il était réapparu après une de ses escapades, ses amis avaient entonné, parodiant un air de l'époque, « Nikos l'embrouille n'a plus rien d'une fripouille !» Il a fait son apparition tard le lendemain matin, avec sa salopette bleu foncé, un tournevis dans la poche de derrière. Ma tante l'avait fait venir à la maison pour des travaux d'électricité. Il y avait passé une dizaine de jours, travaillait à son rythme, démontant des installations, enfilant des câbles, contrôlant si le courant passait avec son tournevis. Un beau matin, il avait disparu. À l'heure du repas, notre tablée était mélancolique. Un fil électrique abandonné pendait au plafond et on sentait bien que Nikos l'embrouille ne reviendrait pas, qu'il était de nouveau parti. Où était-il allé? On racontait qu'il était au trou, mais personne ne savait pourquoi. De son côté, sa mère disait qu'il avait embarqué pour l'Amérique. Impossible de démêler le fil. Il resta absent pendant près de 2 ans. Il réapparut juste avant la déclaration de guerre, avec la même salopette bleue, plein de vie et d'allant. Sa mère était aux anges et elle courait en tous sens pour préparer la soirée. Il y eut une fête à tout casser. Nicolas avait avec lui de nouveaux amis. Il était bien sûr au centre de l'attention et chacun y allait de son discours. Allongé sur le canapé, légèrement blanchi, peut-être un peu alourdi, il faisait les yeux doux à toutes les filles, sans se cacher et sans cesser de boire. Le lendemain, en fin de matinée, il vint à la maison. Il nous salua et se remit aux travaux, comme s'il les avait laissés la veille. « Sacré Nikos, où es-tu donc passé ?» lui demanda ma tante. « J'étais par là, » répondit-il sans se retourner. Il souriait. Un matin, on entendit les sirènes hurler. La vie dans le quartier changea brutalement. La guerre avait commencé. Le même soir, Nikos l'embrouille avait de nouveau disparu. Pendant l'occupation, un jour où j'étais monté chez lui, je pus voir la liste des membres de sa famille épinglée avec des punaises derrière la porte d'entrée, conformément aux directives des Italiens. Le nom de Nikos n'y figurait pas. Je demandai à sa mère comment il allait et où il se trouvait. « Pauvre de moi, comment veux-tu que je sache ?» me dit-elle en resserrant son fichu sur sa tête. Certains soirs, Nikos venait. On ne savait pas qu'il avait vu, mais il venait, cela ne faisait aucun doute. Le lendemain matin, le quartier se réveillait de bonne humeur. Les voisines criaient par les fenêtres des phrases à double sens. « Cette année, d'ici Pâques, nous aurons du beau temps !» L'occupation semblait toucher à sa fin, et avec elle les privations, les arrestations et les épreuves. L'un après l'autre, les gars du voisinage disparaissaient. Ils partaient la nuit pour la montagne sans donner d'explication. Un jour, Pelagia, qui était depuis un an la bonne amie d'un Italien, partit elle aussi. Pelagia, au visage serein, aux yeux très doux, avec ses énormes seins blancs qu'elle aimait montrer à la tombée de la nuit aux adolescents du quartier. « Touche-les, touche !» disait-elle. Finalement, Mario avait dû l'engrosser, car ils allèrent ensemble à Patras pour un bref séjour. Par la suite, quand il disparut à son tour, elle revenait souvent et on la voyait. Elle arrivait la nuit, en uniforme, fraîche et pleine d'optimisme, pour apporter les nouvelles, mais aussi le bonjour des amis. « On arrive au bout de nos peines, » disait-elle, en enfonçant son corsage dans sa jupe pour contenir son encombrante poitrine. Elle nous parlait d'aventures et de combats. Dans toutes les histoires qu'elle racontait, il y avait Nikos. « C'est lui qui m'amène le soir et qui vient me chercher au petit matin, » dit-elle une fois. « Il t'aime ?» lui demanda Stavros. « On s'aime depuis l'enfance, » répondit Pélagie en regardant pensivement par la fenêtre. Le temps passait. Les Italiens se mirent à partir par troupeaux entiers en direction de la montagne. Un jour, les Allemands arrivèrent et ils les parquèrent dans les champs. Un cortège sans fin défilait sur les routes poussiéreuses. Les Italiens n'avaient ni armes, ni paquetage. Les gens leur jetaient du pain et des fruits. À un moment, une voisine cria « Mario, c'est Mario !» Enfin la libération, pensait-on. Mais l'occupation n'était pas terminée. On fusilla 7 prisonniers devant le mur du cimetière. Cela refroidit tout le monde. Le lendemain, Pélagia se pointa dans un uniforme, vieilli et enlaidi. « Mauvaise nouvelle, dit-elle. Ils les ont coincés. Nikos a été touché à la jambe et il s'est enfui sur la montagne, dans la forêt de Capellis. Ils sont à leur trousse. » Un après-midi, on m'envoya trouver un peu de viande chez un de mes oncles qui était boucher. Il m'emmena dans l'arrière-cour où il faisait griller du foie sur un brasero. Je restai avec lui longtemps. La nuit tombait et il faisait froid. On entendit alors du raffut. Au loin arrivait tout un groupe d'hommes armés qui lançaient des cris sauvages et tiraient des rafales en l'air. Les chefs brandissaient par les cheveux 3 têtes coupées. Les gens s'écartaient. Les magasins descendaient leurs rideaux de fer. Mon oncle sortit, ferma la boucherie à son tour et vint vers moi. « Va-t'en par la porte de derrière, » me dit-il. « Ils ont laissé sur le trottoir 3 têtes coupées. »« Malheur, » fit ma tante en se signant. « Qui ont-ils encore tué ?»« Ceux qui étaient là-haut, dans la forêt, » lui répondit mon oncle. Plus tard, on raconta que Nikos Lambrouille était resté en arrière, caché dans un arbre. Tandis que ses poursuivants s'approchaient, il avait découpillé une grenade anglaise et l'avait jetée entre leurs jambes, sur la couche épaisse d'herbes et de feuilles. La grenade n'a pas explosé. Sains et saufs, ils ont attrapé Nikos, l'ont exécuté, puis lui ont coupé la tête. Nikos Lambrouille, extrait de « Bain de mer chaud » de Ilias Papadimitrakopoulos, et c'est traduit par Hélène Zervas, une publication du Miel des Anges, la maison d'édition que dirige Michel Volkovitch. Autre lecture d'un éditeur que nous allons interviewer très prochainement, donc Pascal Arnaud, qui dirige les éditions Kidam, avec une nouveauté à sortir incessamment sous peu, Arnaud Kameniche, Ostrinkata. « Comment ça de l'eau ?» dit la tante à la grande table des habitués dans l'Helvetia. Elle fixe l'Alexis. « Mais ton marteau ?» Elle secoue la tête et glisse une marilon en se ses lèvres. « Ça, j'irai pas te chercher de l'eau. Vas-y toi-même si vraiment t'y tiens. Tu sais où sont les verres, hein ?» Elle prend une allumette dans la boîte sur la table et allume sa marilon. L'Alexis veut se lever, le Louis lui saisit le bras. « Toi, tu restes assis. Ici, personne boit de l'eau, on n'est pas tombé si bas. T'en veux une sur la tronche ou quoi? Peut-être que ça veut te remettre les idées en place. »« Ideas ta quoi force ?» dit l'auto, il caresse sa barbe. Il a une barbe comme une pelle. « Ça n'a pas encore neigé par là, hein? Va donc aller plonger la tête dans un seau que ça la refroidisse un coup. Tu verras comme les fantômes se font le mal, nom de Dieu !» La tante coince sa marilon dans le cendrier Calanda. Elle se lève et va derrière le comptoir. Elle pose une chope devant l'Alexis. « Viva !» elle dit. Elle reprend sa marilon dans le cendrier. Toute sa vie, il a bu de la bière. Et voilà qu'il veut de l'eau. Tu veux te tuer ou bien ? Elle s'assied. Idée de plouc, oui. Aussi longtemps que je vivrai, personne ne boira de l'eau ici, dit le Louis. Ici, c'est de l'or qu'on boit, basta. Allez, bois. Il a une paire de jumelles autour du cou et un bouquetis sur la manche gauche de sa veste de ski bleu. La radio à l'antenne pliée grésille sur le comptoir. On veut pas droit reverser l'eau dans le Rhin, dit la tante. Elle sourit. J'aimerais seulement savoir qui est allé te fourrer une pareille idée dans la caboche, dit l'auto. C'est pas parce que tu as dormi de traviole que tu dois te mettre à causer ta tombe. Pense voir un peu aux autres. Sinon, dans 6 mois, ça sera tellement verdi de partout qu'on pourra plus voir par les trous. Il sort des cigarettes Brissago de la poche de sa veste. Jésus Maria, voilà que le friseur est devenu fada. Il allume son tordu. Non, mais c'est vrai. Bois donc, dit le Louis, qu'elle va être chaude. Ou bien il faudra peut-être te chanter la Sainte Consolatium. Tu bois pourtant comme un cheval à l'habitude. L'Alexis repousse la chope loin devant lui et marmonne. « Je schnock !» Il veut se lever. L'auto l'attrape par l'épaule et le repousse sur sa chaise. Le Louis replace la chope devant l'Alexis. « Bonjour !» dit la Sylvia en entrant dans l'Helvetia. Dans la main, elle a son étui à cigarette et une boîte d'allumettes. « Vous avez déposé vos revolvers ?» elle demande. « Pas qu'il y a encore des morts, vu comme ça sent ici dedans. Dès que Jacques, on est plus tant nombreux !» Elle s'assied et s'allume une sélecte. Tout est calme. La tante se lève et va derrière le comptoir préparer sa café-goutte. La Sylvia met du sucre dedans et remue. Les aiguilles de l'horloge mûre tournent à l'envers. La tante écrase sa marilon. L'Alexis caresse sa coiffure. Le Louis a les yeux rivés sur le cendrier au milieu de la table et longe vers l'Alexis. L'auto fouille dans la poche de sa veste. La tante sort une nouvelle marilon du paquet. Elle prend le cendrier sur la table et l'emporte derrière le comptoir. Elle vide le cendrier, elle nettoie avec la petite brosse, sa marilon allumée aux lèvres. Elle repose le cendrier au milieu de la table et va chercher une nouvelle bouteille de bière pour l'auto. « Viva, elle dit !» L'auto hoche la tête. Le chien sort de sous la table. Arnaud Kaminisch, Oustrinkata, traduit par Camille Lucher, traduit du l'allemand, et c'est apparaître aux éditions Kidam. Voilà, c'était la 50e de Lecture par tous. Nous n'arrêterons pas en si bon chemin et nous vous disons désormais déjà à la semaine prochaine. Merci de votre attention et merci à Rongemaille, à la technique. En plus, je lui ai donné du travail aujourd'hui. Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.